Bonjour, ici Hugo Prévost. Bienvenue à une série d'épisodes spéciaux de Pixels et Préjugés intitulée « Dans les coulisses de Gameloft ». Je vous propose de découvrir le travail d'employés de cette compagnie qui a récemment amorcé son virage vers les jeux sur PC et console. Ces épisodes sont commandités par Gameloft. Bonne écoute! Amandine Lainée, bonjour.
Salut.
Bienvenue à cet épisode spécial de Pixels et Préjugés.
Merci.
Alors, tu es responsable du recrutement régional, voilà, pour les Amériques chez Gameloft, bien sûr. Donc, c'est toi qui es, entre autres, en fait, pas entre autres, mais toi qui s'occupe donc justement d'aller chercher ces nouveaux talents, d'aller chercher ces nouveaux employés de chez Gameloft. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'était ta tâche exactement?
C'est ma tâche, mais c'est aussi celle de mon équipe. On est une équipe de 6 personnes, en fait, au recrutement aujourd'hui. On s'occupe vraiment de recruter l'ensemble des personnes que l'on peut trouver sur une production de jeux vidéo et en fait sur beaucoup de profils, en fait, donc vraiment tout ce qui est artiste, game design, programmation, mais aussi des métiers annexes comme la traduction, tout ce qui est aussi musique également, tout ce qui peut être IT lié au data center, connexion, etc. Donc c'est vrai que on est vraiment sur tous les métiers que l'on peut trouver et qui gravitent autour d'une production elle-même. Notre rôle, c'est vraiment de trouver les meilleurs talents, les dénicher, aller les chercher, leur faire passer tout le process d'entrevue et les signer en fait jusqu'à la fin du process pour qu'ils intègrent la compagnie et les onboarder aussi.
Et donc, c'est ça, je pense que je l'ai mentionné, pour les Amériques, mais donc principalement le studio de Montréal, mais également des studios à d'autres endroits, évidemment, dans les Amériques, c'est pas seulement Montréal.
Non, c'est vrai, oui. C'est vraiment Montréal, donc, c'est la prio, oui.
Oui. Et donc, d'autres endroits, où est-ce que c'est exactement les autres studios de Gameloft?
Comme on disait, principalement Montréal, Toronto a une antenne, mais ils ont aussi des recruteurs sur place. Après, on s'occupe des États-Unis, principalement New York et la côte ouest. Ensuite, l'Amérique du Sud et centrale avec le Mexique, le Brésil, l'Argentine. C'est vraiment les pays principaux sur lesquels on va aider au recrutement.
Et Ce processus-là de recrutement, évidemment, j'imagine, ça commence par un affichage. En fait, déterminer quels sont les besoins, évidemment, mais bon, pour la personne qui est de l'extérieur, ça commence par l'affichage. Parle-moi un peu du procédé, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'entrevue. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, de votre côté au recrutement quand ce processus-là est enclenché?
Alors, tu l'as dit, il y a vraiment, évidemment une grosse prise de besoin qui doit être faite avec le manager pour vraiment déterminer ce qu'il veut pour son projet, pour son équipe. Ça, c'est une grosse partie en fait de notre travail finalement, parce qu'on apporte beaucoup de renseignements aussi en amont auprès du gestionnaire pour lui donner une idée du marché, de ce qui se fait, de lui donner aussi un peu des attentes au niveau de quand il peut espérer avoir quelqu'un, parce que c'est un marché qui est très compétitif, notamment à Montréal. Puis là, je vais vraiment parler du recrutement plus à Montréal, que je connais le plus, mais c'est un marché qui est très très concurrentiel. Donc après la prise de besoin, il y a l'affichage, et ça c'est quelque chose, c'est la voie facile. On reçoit pas mal de candidatures, beaucoup quand même, donc il faut les trier, il faut les analyser. Mais à côté de ça, on cherche tellement des profils spécifiques aussi que l'on doit aussi aller chasser ces profils-là en fait sur les réseaux comme LinkedIn, mais aussi promouvoir tout ce qui est référence auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent nous référer des personnes avec lesquelles ils ont déjà travaillé, en qui ils ont confiance, avec lesquelles ils ont envie de retravailler sur un nouveau projet. Donc il y a un gros travail en fait de notre part aussi à aller questionner les gens au studio, puis à les amener à nous recommander des personnes en fait, et nous aller les chercher aussi À travers, ben, comme je te disais, des réseaux comme LinkedIn ou des plateformes bien spécifiques où on peut trouver des portfolios comme ArtStation, Behance, etc. Où là, c'est vraiment ben, aller creuser des profils sur des technos ou une façon de créer un art bien spécifique, en fait, et les identifier et de les proposer aux gestionnaires, en fait.
Et évidemment, dans un contexte de virage vers les jeux sur PC, console, qu'est-ce que ça a changé côté recrutement de faire ce saut-là vers les nouvelles plateformes?
Alors, ça a changé, disons, la façon de nous de sourcer, par exemple. On a pu aller sur des compagnies qui étaient aussi un peu plus orientées PC-console ou être un peu plus attirées par des candidats qui étaient plus PC-console, même si auparavant, je te dirais que autant le mobile et le PC-console, on peut trouver vraiment des similitudes sur ce genre de production. Donc, quelqu'un qui a travaillé sur un jeu mobile peut vraiment travailler sur un jeu PC-console par la suite. Et l'inverse est aussi pareil. Donc, du coup, ce qui a plutôt changé, je dirais, au-delà un petit peu d'ouvrir notre champ des possibles au niveau de la recherche, c'est l'attraction qu'on peut avoir. En fait, je pense auprès des candidats, c'est pas la même chose de produire un jeu mobile versus un jeu PC console. Il y a un reach qui est différent. Il y a, on va dire, un peu plus en PC console de qualité, entre guillemets, même si effectivement on faisait beaucoup de qualité avant sur le mobile, c'est plus affiné, on va dire, même si tu restes sur des jeux très casus, comme on peut faire, assez casual, etc., on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus affiné, donc les productions sont un peu plus longues, mais c'est vrai que ça attire beaucoup plus les candidats, et surtout après le succès là qu'on a eu avec Disney Dreamlight Valley, où on s'est prouvé que et on a prouvé en fait aussi aux futurs employés et aux joueurs qu'on savait faire un jeu PC console first à Montréal. Donc ça, ben forcément, quand on le market, nous en tant que recruteurs, ça a un impact qui est très fort.
Et j'imagine qu'aussi, bon, aller chercher des nouveaux employés, ça passe par aller voir les étudiants, aller voir les jeunes. Est-ce que outre la question du virage, mais est-ce que ça a changé de ces dernières années de dire la façon dont on approche ces gens-là ou est-ce que ça reste un peu la même chose fondamentalement?
On a toujours travaillé avec les écoles, c'est super important de travailler avec eux dans le sens, déjà, ne serait-ce que pour leur montrer en fait, ce qui se fait dans l'industrie à Montréal, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on est en train de faire, tout ça c'est très important de leur montrer pour qu'ils puissent se projeter, en fait. Mmh. Après, nous, ce qu'on fait aussi, puis on n'a pas toujours des stages, en fait, à pourvoir, même si on en a quand même de temps en temps, on aime bien les rencontrer pour leur donner des conseils sur leur portfolio, sur leur CV, leur parler de nos projets en cours, sur des cas très concrets. On fait ça très souvent avec les écoles à Montréal. On a la chance à Montréal d'avoir pas mal d'écoles qui sont quand même spécialisées en jeux vidéo. Donc, on fait beaucoup ça. On les reçoit au studio aussi pour des visites. On a la chance aussi d'avoir des collaborateurs sur les projets qui aiment participer à ces choses-là. Donc, eux viennent avec nous, présentent leurs projets. Des fois, ils font des business cases un petit peu entre un artiste et un game designer où ils montrent en fait sur quoi ils ont travaillé ensemble. Donc, au sein d'une même cohorte, tu peux avoir des gens qui disent « Ah bah tiens, moi je suis en art, moi je suis en game design. » Et au final, alors, ok, on va travailler comme ça dans le futur. Donc, ça les projette et je pense que c'est important. Et donc, ça a pas vraiment changé. C'est plus ce qui a changé, c'est la concurrence à Montréal. On est vraiment nombreux à rechercher des talents. Donc, on est nombreux à vouloir justement attirer autant les jeunes talents que les expérimentés. Donc, il faut vraiment se positionner très, très vite.
Parlant de positionnement, évidemment, il y a eu la pandémie il y a quelques années. Ben, en fait, jusqu'à tout récemment, mais est-ce que ça justement, ça a dû avoir un impact là, sur ce qu'on offre finalement aux candidats là?
Complètement. C'est sûr que les candidats, après 2 ans, un peu plus de pandémie, ont des attentes différentes. On a On n'était pas une industrie très portée télétravail par le passé. Maintenant, depuis cette pandémie, on n'a pas eu le choix. On s'est prouvé aussi, encore une fois, qu'on était capable de sortir un jeu à succès pendant une pandémie avec une production quasiment en full télétravail. À partir de là, c'est difficile de revenir sur ses acquis aussi. Et au contraire, je trouve qu'au moins, ça a permis de booster cet avantage-là. Donc après, la difficulté, c'est d'avoir toujours le côté, comment dirais-je, appartenance à un studio. Quand on travaille de chez soi, c'est difficile parce qu'on voit moins ses collègues, on a moins la vie du studio, etc. Donc pourquoi en fait, pourquoi pas changer, puisque de toute façon tu seras chez toi et ça va pas changer ton quotidien. Donc je dirais que notre challenge est vraiment là. Puis pour tout le studio, hein, les équipes RH, recrutement, communication, le top management travaille vraiment dans le sens où il faut attirer, réattirer, on va dire, les gens au bureau. Et comment? Ben oui, on a du télétravail, oui, on est full flexible, c'est super important. Par contre, on essaie de d'organiser des événements autour du studio où toute occasion est bonne à prendre, un barbecue d'été par exemple, ce genre de choses pour justement revenir, se réunir et créer ce sentiment d'appartenance à un studio, à un projet, etc.
Et cette question-là du sentiment d'appartenance, bon, vous mentionnez la flexibilité, tout ça, est-ce que tu envisages que, bon, il va falloir encore offrir plus de flexibilité, plus d'avantages. Tu parlais du marché compétitif pour trouver des gens. Est-ce que tu crains qu'il arrive un point où on puisse plus offrir des choses de plus parce qu'on offre le maximum?
Ben oui. Oui et non, mais en fait, je pense que on doit être créatif. En fait, c'est ça. Il faut être créatif, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter aux personnes aussi, aux candidats, aux mentalités qui peuvent changer. C'est vraiment ça, en fait. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix, de toute façon, d'être créatif, d'essayer de trouver des nouvelles choses. Il faut se positionner, je pense aussi, en tant que studio, quelle est vraiment ma valeur fondamentale et sur laquelle je vais pousser pour attirer des candidats. On est un studio qui est à taille relativement humaine. On est de bonne taille, on va dire, parce que les productions ne sont pas énormes, ce qui fait que on axe vraiment aussi sur l'impact que tu peux avoir sur ton jeu. Ça, c'est quelque chose d'important, surtout pour des profils seniors aussi, qui ont pu passer sur d'autres types de studios. On axe sur ça, on axe sur le fait que on est vraiment axé famille aussi. Donc, on aime que les collaborateurs aient du temps pour eux, qu'ils profitent. C'est pour ça qu'on est passé à 4 jours et demi semaine. Donc, vraiment, voilà, c'est vraiment axé sur 2-3 fondamentaux qui vont faire que tu vas pouvoir te mettre en avant en tant que studio. Mais après, oui, c'est la course aux avantages, ça c'est évident. Mais il faut faire attention aussi à offrir des avantages qui sont pertinents par rapport aux attentes en fait des candidats, je dirais.
Et peut-être une dernière question. Si moi, demain matin, je décidais de me lancer, de dire je veux travailler en jeu vidéo, qu'est-ce que ça me prendrait comme formation, comme bagage pour dire bonjour Gameloft, je suis une candidature intéressante, je suis quelqu'un d'intéressant pour vous, venez me chercher.
Ça dépend vraiment des profils et de ce que l'on va rechercher. Effectivement, sur un profil très senior, selon le poste, je pense à un producer, un directeur créatif, c'est sûr qu'on va chercher des expériences. Ça va être vraiment important d'avoir des gens qui ont de l'expérience en jeu vidéo pour amener justement ce savoir. Après, sur des postes plus juniors, plus intermédiaire, on est sur plus l'appétence en fait des gens et la passion qu'on peut trouver chez certains candidats. Oui, on disait tout à l'heure, on va chercher dans des écoles, etc. C'est bien d'avoir ce bagage-là. Autant nous, quelqu'un qui joue beaucoup, qui sait analyser un jeu, qui a vraiment un intérêt, qui fait des lectures sur ces sujets-là, qui se renseigne, c'est tout aussi précieux parce que c'est quelqu'un qui forcément sera allumé et qui, quand quand il va commencer à travailler, aura ce réflexe de nouveauté, d'aller chercher, etc. Donc ça, c'est tout aussi précieux, ouais, comme je le disais.
Amandine Lenné, responsable du recrutement régional pour les Amériques chez Gameloft. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de la série Dans les coulisses de Gameloft. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles rencontres. À bientôt.